Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charline.
Salut Alex.
Je suis comme un fou.
Ah bon, c'est qui l'invité?
Attends. Puissance et gloire, dans l'eau trouble d'un regard.
Ah non, pas lui.
Mais quoi, pas lui?
Ça va, Herbert Léonard, non merci.
Non, mais non, Charline, c'est le compositeur.
Mais comment tu veux que je sache?
Autre indice.
Oui.
Tout, 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 tout.
Ouais, soigne ton mi bémol quand même. Le grand blond avec une chaussure noire, génial.
Ah bah t'es contente, c'est pas n'importe qui.
Ah non, non, mais je savais pas que Pierre Richard avait écrit la musique de Château Vallon.
Mais pas Pierre Richard, c'est le compositeur.
Mais comment? Comment tu veux que je sache?
On reçoit tout simplement un des plus grands compositeurs de musique de film au monde.
Mais qui?
Mais alors, si tu tapes Vladimir sur Google, c'est le deuxième.
Bah, Vladimir Kosma.
Mais
bah,
voilà,
bah, c'est génial.
Bah oui.
Bah évidemment, Rabbi Jacob, voilà. Alexandre le Bienheureux, le Dîner de Conde.
Ah bah ça, tu connais, attends, tu connais celle-là?
Ouais.
Ah, tu sais, hein.
Non, mais ça n'a rien à voir, Alex. C'est très bien que c'est Ennio Morricone, ça, quand même.
Bah, bien joué, ouais. C'était pour voir si tu suivais.
Ouais. Bah, oui, quand même. Bah, là, moi, j'en connais aussi des titres de Cosma.
Vas-y.
Dreams are my reality.
Oh, destiné. On était tous les deux destinés.
T'as essayé de me pécho,
mais c'est Vladimir Kosma qui l'écrit pour le Père Noël est une ordure.
C'est toi l'ordure. Il a essayé de m'enrouler, là-haut.
Ouais, mais normalement, sur du Kosma, je pécho, moi.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up Émission, un lieu public où la blague tente d'apaiser l'actualité. Et voici les trois informations qui vont faire l'objet d'un massage aux huiles essentielles jusqu'à 18h. L'union de la gauche, c'est comme les calendes grecques ou la semaine des 4 jeudis. On sait que ça n'arrivera jamais, mais on en parle quand même. Ségolène Royal a expliqué ce matin qu'il n'y aurait pas d'union de la gauche pour les élections européennes.
Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour moi? Pour quel honneur je suis censé me faire chier, moi, avec vous?
Ça ne peut pas se passer comme ça. La France, c'est le pays des ciné-concerts. Au pied de l'écran où un film est projeté, un orchestre joue la musique du film. Un moyen de faire entrer Star Wars à la Philharmonie de Paris.
C'est bon
son. Des groupes qui reprennent Queen, Led Zeppelin ou les Doors partent en tournée car ils ont beaucoup de succès. Ces vrais faux groupes mythiques, les faux groupes officiels si vous préférez.
De toute façon, c'est pas vous les stars. Les stars, c'est vos chansons. Personne connaît leur prénom. C'est quoi vos prénoms, Tic et Tac? Ridicule.
Lui utilise de vraies infos officielles et c'est la raison de son succès à lui, Alex Vizorek.
Mais bonjour Charlie Vanhoenacker. Eh bien, j'ai une belle équipe pour vous. Une belle équipe à 17h20, il adore le grand blond avec une chaussure noire. Lui, le grand roux avec une casquette blanche, c'est Thomas Croisière, bonjour.
Je vous ai déjà dit que j'étais blond vénitien.
Ah oui, je m'attendais à cette réponse. De quoi on va parler?
On va parler de notre invité et de son œuvre.
C'est un peu votre idole. À 17h30, celle qui était très contente d'enterrer 2018 par conscience professionnelle, c'est Christine Gonzalez.
Aujourd'hui, on invite l'écrivain Georges Simenon. Georges, vous avez tout de suite accepté l'invitation de Par Jupiter.
Je l'ai fait, quitte à choquer beaucoup de gens, quitte à me faire un état d'ennemi. C'était un besoin absolu.
Bah, ça nous fait plaisir, hein, compatriote. Et à 17h40, celle qui a fait vœu pour cette nouvelle année que tous les autres membres de cette émission soient enfin à sa hauteur intellectuellement, autant espérer que Carlos Ghosn devienne lipophile, c'est Isabelle Sorand. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour les amis. Ce soir, je vous parlerai de ces animaux qui se reconnaissent dans le miroir.
Oui, c'est déjà un échec pour ma part. À 17h55, celui qui chante l'actualité qui déchante, Frédéric Fromet, viendra interpréter sa chanson.
Et voici celui qui est entré dans l'open space. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs qui vous êtes, de votre jolie voix. Vous êtes...
Je suis Vladimir Kosma, compositeur de musique, principalement de musique de film, français d'origine roumaine, et...
Et c'est déjà pas
mal. Et Vladimir Kosma est à la barre, non, voilà. À la profession.
Voilà. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek...
Par Jupiter.
Bienvenue Vladimir Kosma. Nous sommes très heureux de passer cette heure en votre compagnie.
Mais moi aussi.
Vous serez en concert au Grand Rex les 26 et 27 janvier car vous allez diriger l'orchestre symphonique du 7e art qui est composé de 65 musiciens. Vous serez entouré aussi de 80 chanteurs du chœur des universités de Paris avec aussi les plus grands solistes parmi le violoniste David Castrobalbi, l'accordéoniste Roland Romanelli. Je citerai tout le monde tout à l'heure et il y aura même des invités sur scène plutôt DJ électro.
métro, Polo et Pan par exemple. Vladimir Cosma, qu'est-ce qui se passe quand vos musiques s'affranchissent du film ? Qu'elles sont libres, sans images ? Parce qu'on a une idée, bien sûr, quand on les écoute sur notre chaîne IFI, ou quand Thomas Croisière place ses magnifiques vinyles sur sa platine. Mais quand on est en concert et qu'on n'a pas les images, que ça s'affranchit du film, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, écoutez, il se passe qu'elles deviennent, j'espère, plus belles, plus amples, plus grandes. Parce que pour qu'une musique puisse s'exprimer sans le support de l'image, sans tout ça, il faut qu'elle vive toute seule. Mm-hmm. Donc pour qu'elle vive toute seule, il y a une construction légèrement différente, même parfois complètement différente, qui fait que tout d'un coup la musique, vous l'écoutez comme une musique simplement écrite pour le concert. Et si vous voulez, j'ai travaillé une grande partie de ma vie pour le cinéma, ce qui est une chose formidable parce que le cinéma nous donne la possibilité de nous faire entendre, nous compositeurs, par des millions et millions de gens. La seule chose que j'ai regrettée pendant cette période, c'est que dans la musique de film, vous êtes souvent très restreint au niveau du timing. Vous faites des musiques 42 secondes, 2 minutes quand c'est un générique. Et il me manquait le développement, la liberté dont vous parlez, de pouvoir développer, transformer, donner une force à ces musiques qui me manquait dans le cadre du cinéma. Et voilà, le concert me donne cette possibilité. Aussi, on vit dans une période où les choses sont de plus en plus mécanisées, électrifiées. Vous savez, même quand je fais actuellement des musiques de film, ou parfois, on se trouve avec 3 musiciens, guitaristes, de synthé, des choses. Et alors que le concert, vous l'avez énuméré, presque 200 personnes sur scène, nous jouons en direct, ensemble. C'est un plaisir extraordinaire de partage de la musique entre nous, musiciens, et le public.
Ça va être fabuleux. Alors, parlez-nous de cette formation. Vous avez joué avec beaucoup d'orchestres,
même collaboré avec un orchestre belge, je vous disais, l'Orchestre National de Belgique.
Parmi les meilleurs.
Beaucoup, voilà, parmi les meilleurs de Belgique.
Bien sûr, vous avez collaboré avec beaucoup, beaucoup d'artistes. Et là, vous allez diriger l'Orchestre Symphonique du 7e art. Et il y aura aussi les chanteurs du chœur des universités de Paris. Quel est cet orchestre? Comment est-il formé?
Écoutez, c'est un orchestre que je voudrais meilleur que tous les orchestres qui ont un nom du style Orchestre de Paris, Orchestre de l'Opéra, etc. Parce qu'en fait, ce sont des musiciens qui sont choisis un par un avec mon régisseur d'orchestre et avec mon soin. Je sais qu'à la première trompette, il y a un tel, je ne vais pas dévoiler le nom de tous les musiciens, parce que si je dis un, il faut que je
les
le dise
200,
tous, voilà. Mais disons que dans un grand orchestre symphonique, vous avez certains qui sont meilleurs que d'autres. Bon, j'essaye, moi, quand je fais de la musique de film, même quand je vais à Londres, d'avoir la facilité, c'est de se dire, je vais prendre le London Symphony Orchestra, qui est un orchestre mondial.
C'est la facilité, ça, généralement.
C'est une belle facilité, oui. Mais si vous voulez avoir vraiment les meilleurs musiciens de Londres, vous les choisissez un par un, et comme ça, vous allez avoir le meilleur corniste de Londres, qui vient peut-être du Royal Philharmonic, et le premier trompette qui vient du London Symphony, le premier violoncelle qui vient d'ailleurs, parfois des solistes, etc. Donc cet orchestre, c'est un orchestre que j'espère formidable, puisque je les ai choisis.
C'est un casting,
moi,
comme dans un film.
C'est un casting, voilà, oui, exactement. Oui, oui. Quant aux chœurs, c'est des chœurs des universités de Paris qui sont dirigés par un très très grand musicien qui est Guillaume Connaisson, que j'admire et je remercie pour m'avoir aidé dans cette histoire, puisqu'il répète avec ses chœurs. Moi aussi je vais de temps en temps, mais lui il les prépare aussi depuis des mois, et voilà, c'est presque 100 choristes qui vont être là pour
les solistes et les invités,
plus des solistes qui sont parfois des musiciens avec lesquels j'ai déjà travaillé avant. Par exemple, vous avez cité Roland Romanelli, je citerai surtout Greg Zlap à l'harmonica, qui est harmoniciste fantastique avec lequel je travaille. C'est pas pour porter ombrage à tout Tillemans, votre.
Bien sûr.
Voilà. Mais si vous voulez, comme tout Tillemans c'est mort, je ne peux malheureusement plus le prendre. Donc.
Effectivement. Et le bassiste Fifi Chaïeb également.
Je ne sais pas pourquoi vous aimez son look ou quoi.
Non, je les cite tous. J'ai la liste sous les yeux.
Il y aura Richard Sanderson qui vient chanter.
Il y aura, oui, mais pour l'instant, je parlais des musiciens.
Ouais, mais j'ai envie de le dire parce que moi, ça me donnera envie d'y aller.
C'était une des surprises que vous aviez faites il y a quelques années, c'était Richard Sanderson, qui est donc le chanteur de Dreams Are My Reality. Donc là, il sera
l'original.
Parmi
nous. Oui, il sera là. Il sera là. Et à côté de lui, il y aura un groupe anglais de jeunes qui s'appelle les Retrozettes.
Ok.
Avec que j'engage pour la première fois, que j'ai entendu dans le film de Sorrentino, dans Youth. Si vous avez vu, c'est un cinéaste génial et il a joué ma musique, justement Dreams Are My Reality, avec un groupe étonnant que j'avais entendu. C'était pas Sanderson, c'était un cover, ce qu'on appelle, et j'ai aimé et j'ai voulu les avoir pour ce concert. Donc ils vont être là.
Et nous voilà, aussi, on a envie d'être là. Vladimir Cosma, ça a l'air formidable. Donc, vous êtes au Grand Rex, les 26 et 27 janvier. Et aussi, pour la première fois, vous donnerez une masterclass au Grand Rex. Ce sera le 27 janvier à 11h, Thomas Croisière. Notez bien. Masterclass de Vladimir Cosma pour la première fois. Qui est avec nous jusqu'à 18h. Il donne sa masterclass aux auditeurs de Par Jupiter.
Très bien.
Not Good, Amy Winehouse sur France Inter, Par Jupiter en compagnie de Vladimir Cosma. On a parlé des concerts au Grand Rex les 26 et 27 janvier. Si vous n'avez pas l'occasion de venir, sachez qu'il y a un double CD qui est déjà disponible. Vladimir Cosma en concert.
Ouais, c'est le titre.
Et, oui.
Et ça, c'est très clair. Parce que c'est vous et c'est le concert.
Pas d'ambiguïté.
Double CD.
Pas d'ambiguïté. Qui pour accompagner Vladimir Cosma aujourd'hui ?
Eh bien, Thomas Croisière, évidemment, qui en parlera. Isabelle Sorrente et Christine Gonzalez, qui communiquera avec Georges Simenon.
Et un petit journal d'actualité.
Ça, il y a aussi, ouais.
Je ne suis pas là en train de pérorer en disant « fabuleux, les femmes de 50 ans m'attirent moins que les femmes de 25 ». Je suis prisonnier de moi-même.
Le journal de presque 17h17.
Tais-toi, ne parle plus de ça, je t'en prie.
Et on commence par les titres.
Ségolène Royal a annoncé précisément « Je reprends ma liberté de ne pas être candidate aux européennes ».
Et on a envie de dire « Vive la liberté », bien entendu.
C'est à Bruxelles que Booba et Caris s'affronteront lors de leur fameux combat de boxe.
Et c'est une bonne idée, Bruxelles, un endroit où les Flamands et les Wallons se tapent dessus depuis 60 ans. Un excellent décor pour le combat de boxe.
Et Vladimir attend les brèves.
Eh oui, parce que moi je suis prêt à prendre qui veut en MMA de brèves. Mais commençons par Michel-Édouard Leclerc.
Qui était invité ce matin sur BFM et il a tenu à affirmer que le travail ne paie pas assez en France.
Ah, si seulement Michel-Édouard Leclerc était patron d'une grosse boîte, il pourrait peut-être rémunérer ses employés plus.
Donc on parle de consommation. Oui. Des supermarchés ont créé la polémique en vendant de la viande de zèbre, d'autruche et de kangourou. Et
encore ça va, parce qu'avec les chasseurs qu'on a en France, ils auraient bientôt pu mettre des entrecôtes de cyclistes dans les supermarchés.
Pouvoir d'achat encore, oui. En 2018, Rolls-Royce a vendu un nombre record de voitures depuis ses 115 années d'existence.
Et oui, des Rolls-Royce qu'on voit pourtant très peu sur les ronds-points en France en ce moment.
Politique à présent, oui. Dans un entretien à Valeurs Actuelles, Marine Le Pen a estimé que les Gilets jaunes ont souligné certaines convergences avec Jean-Luc Mélenchon.
Ah bah il était très content d'ailleurs. Et j'ai regardé les photos des deux leaders et effectivement, il y a un point commun, ils ont le même dentiste incompétent en matière de blanchiment.
Santé, toujours. Oui, épidémie de grippe, la région la plus touchée serait la Bretagne.
La Bretagne, hein, les Bretons, qu'est-ce qu'ils ferait pas pour trouver le prétexte de prendre des grogs dès le réveil.
Le CES 2019 s'est ouvert, c'est le grand salon des inventions technologiques. Un sextoy féminin robotisé gagne un prix avant de se le voir retirer puis être banni du salon.
Oui, ben moi je trouve ça très bien. On va quand même pas courir le risque que ce soit un robot qui arrive à trouver le point G alors que nous on n'y arrive pas. Alors, bien d'accord.
International, oui. Les Saoudiennes seront désormais informées par texto de leur divorce.
Oui, parce que les hommes avaient tendance à les quitter sans les prévenir. Alors on imagine un peu le truc. Pour divorcer, tapez 1. Pour divorcer de votre deuxième femme, tapez 2. Pour la punir, tapez 2. Voilà, c'est l'Arabie Saoudite du jour.
Une compagnie aérienne indonésienne propose des concerts en plein vol en précisant qu'en cas de turbulence, le chanteur sera invité à s'asseoir.
Voilà, et les chorégraphies seront toujours assurées par les hôtesses de l'air lors de la présentation des consignes de sécurité.
Sport, le président du comité olympique japonais a été mis en examen pour corruption suite à une enquête sur l'attribution des JO à Tokyo en 2020.
Et voilà qui n'arriverait pas chez nous, je peux vous dire.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais de corruption en France ?
Non. Parce que ce serait quand même complètement con que la présidente du comité olympique français fasse usage de corruption pour choper les JO de 2024 alors que Paris était le seul candidat.
Ah, bah
et
oui, ouais,
ils sont malins en France.
Alors,
évidemment.
Vladimir Cosma, comme tout le monde, alors, attend les brèves.
Bergerac, il trouve sa maison trop sale et décide d'y mettre le feu. Oui, c'est une bonne idée, mais il y a encore plus de poussière maintenant, donc c'était pas très malin
ouais,
non plus.
Dessus. La deuxième.
Parce qu'il y en a trois aujourd'hui. Lande. la grand-mère cultivait du cannabis pour faire plaisir à son petit-fils. Et ça, c'est bien. Elle aurait même échangé toute sa collection de disques de Frank Michael contre l'intégrale de Bob Marley, ça c'est bien aussi.
Allez, la dernière.
La dernière, Loire-Atlantique, plus d'un millier de poulets périssent dans un accident de la route. On espère que Renaud Muselier va lancer une cagnotte litchi pour soutenir tous ces poulets une fois de plus.
Merci Alex.
De rien, Charline.
Vladimir Cosma, nous avions envie de parler d'Europe avec vous. Et l'information du jour en France concernant les futures élections européennes, c'est la gauche qui n'a pas réussi à s'entendre pour présenter une liste commune, alors que les populistes ont déjà avalé une grosse partie du vieux continent, comme un nouveau mur qui vient diviser l'Europe. Alors cette question, pourquoi la gauche est-elle désunie ? Tentative de réponse, hypothèse, hein, pure et simple.
Et maintenant, c'est moi qui commande, je suis le plus grand. Quoi ? C'est moi qui commande, je suis le plus grand.
Non, c'est moi qui commande parce que je suis le plus fort.
Non, c'est moi qui commande, je suis le plus gros.
Non, c'est moi qui commande parce que j'ai le fauteuil.
C'est moi.
Le gendarme et les extraterrestres de Jean Giraud. Alors, Vladimir Cosma, la Roumanie a pris pour la première fois hier la présidente tournante de l'Union européenne.
C'est formidable. Enfin, ça me fait vibrer l'Europe là. Tout d'un coup, une vraie Europe qui arrive et tout va se régler maintenant. Vous allez voir.
On attend de voir ce que ça va donner.
Parce que vous savez que la Roumanie a donné Dracula, ce qui a arrangé beaucoup. Le sort des Roumains et des Européens. Maintenant, ils ont la présidence, ils vont appliquer peut-être la même technique.
Méthode.
Voilà.
C'est vrai. Et donc, c'est sous leur présidence qu'il y aura donc les élections européennes. Vladimir Cosma, est-ce que vous vous exprimez parfois sur la politique ? Ça vous arrive ? J'imagine que l'Europe et le péril populiste, ça doit aussi vous poser des questions, faire vibrer l'Europe. Vous êtes un Européen convaincu ?
Ben, je suis... Européen de naissance, oui. Vous savez, on n'est pas ce qu'on veut, donc que je sois convaincu ou pas, ça n'a aucune importance, je le suis quoi. Donc,
l'idée de l'Europe au-dessus des États, par rapport à l'Europe des États, est-ce qu'elle vous convainc ?
Pas tout à fait sur le plan professionnel, parce que j'aime bien prendre les décisions moi-même musicalement, etc. Depuis que l'Europe continue ça, nos droits d'auteur sont devenus rien du tout. Il y a des règles qui nous sont imposées, qui sont la plupart du temps à notre défaveur. Donc ça, ça me plaît pas beaucoup. L'idée abstraite, bien sûr, est très très belle, mais quand je vois, vous parlez vous-même de populisme et tout ça, alors qu'est-ce que c'est que cette Europe ? Pourquoi, si c'est tellement uni, pourquoi il y a tous ces courants qui arrivent où ? En Europe, et de plus en plus. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi ? Je ne sais pas. Je préfère m'en tenir au Do majeur, Sol mineur, Allegro, Manon Troppo, Piano, Pianissimo, voilà, ça je sais bien. Le reste, je ne sais pas. Mais je vous répète, les Roumains sont maintenant à la tête de l'Europe, donc vous allez voir que ça va être mieux, quoi.
Ça va. Je pense que ça peut clore le débat. Qu'on peut rester là-dessus parce que c'est une note positive.
Oui.
Et on met tout l'espoir sur les Roumains, ça on peut dire. Toute l'Europe derrière les Roumains pendant leur présidence.
Ça peut pas aller pire que maintenant. Quoi.
Ça nous rassure assez bien.
Ça ne peut vraiment que remonter la chose. Hein. Oui. Ça c'est parce que vous allez décrocher un poste avec ça.
Oui.
Peut-être
pour les mener à la baguette.
Commissaire la culture.
Bah écoutez, je dirige les concerts là, au Organ Rex, j'ai décroché déjà ça.
C'est déjà pas mal. Ouais.
C'est vrai. Et toutes vos collaborations font de vous aussi un Européen. Vous faites l'Europe de la culture, Vladimir Kosma. Eh bien, venons-en à votre œuvre avec Thomas Croisière.
Destiné,
évidemment.
On était tous les deux destinés.
Oui, Vladimir Kosma, nous étions tous les deux destinés. Pas seulement parce que vous êtes le compositeur de ce pastiche estival pour les sous-doués en vacances, pas seulement parce que je suis le grand blond vénitien avec une casquette blanche, et pas seulement parce que je suis l'heureux acheteur du lot les musiques de Vladimir Kosma, de la vente aux enchères de la discothèque de Radio France. Votre présence à mes côtés prouve une chose, que mes rêves sont ma réalité. Non, ce n'est pas parce que mon cœur fait boum et que vous avez vendu 27 millions d'exemplaires de ce tube de Richard Sanderson que l'on est obligé de me remémorer cet imparable slow sur lequel Elsa Veil m'a mis un râteau en cinquième, ainsi qu'en quatrième, en troisième, et si je n'avais pas déménagé, je suis sûr qu'elle continuerait. Non, cher Vladimir, je vais profiter de votre présence pour vous présenter mon top 4 très personnel des films dont Vladimir Kosma a composé la musique. Numéro 4.
Si je peux me permettre de vous donner un conseil pour la prochaine émission, rajeunissez vos collaborateurs.
Mais qui vous autorise à me donner des conseils?
Je suis le directeur de la chaîne.
Pour combien de temps? Si ça se trouve dans un mois, vous serez, je sais pas moi, à la SNCF ou au ministère du temps libre. Vous savez mon petit gars, faut pas vous gourer parce que moi ça fait 30 ans que je fais le comique. Hein. Alors ce genre de réflexion, pas chez moi.
Les Rois du Gag, une de vos 10 collaborations avec Claude Zidi pour qui vous fit aussi L'Aile ou la Cuisse ou Banzai. C'est l'occasion d'aborder notre quotidien, celui des galériens de l'humour. Après avoir vu ce film, vous aurez plus d'indulgence pour les brèves d'Alex Vizorek. Le génial Michel Serrault cabotine à souhait en Gaëtan, sorte de Colaro sur le retour, enfin de Colaro tout court, et en fait des tonnes au propre comme au figuré en Robert Wilson, parodie d'Orson Welles qui nous rappelle qu'il est beaucoup plus difficile de faire rire le monde que de faire jubiler le petit bonhomme Ramnard de Télérama. Et au fond, comme il est dit par Gérard Jugnot dans le film, il n'y a qu'un seul réalisateur que je connais qui soit très profond, c'est Cousteau. Numéro 3.
L'oiseau dans la clairière bleue.
La voix d'Isabelle Aubray pour Alexandre le Bienheureux, votre première musique de film suite au départ en Amérique de Michel Legrand, dont vous étiez l'assistant sur Les Demoiselles de Rochefort. Alexandre est une comédie visionnaire sur un homme qui refuse le productivisme et décide un matin de ne plus se lever. C'est aussi la première de vos 13 collaborations avec Yves Robert, pour qui vous composâtes le grand blond, un éléphant ça trompe énormément, ou Le Jumeau avec Chet Baker. Ce film nous questionne sur nos choix de vie, la liberté, la décroissance et la beauté de Marlène Jobert. Et je connais peu de moments de cinéma aussi émouvants que ce plan final sur la bouille de Philippe Noiret, qui après avoir traversé un champ de tournesol répond à la question « Alexandre, mais où vas-tu ?» « Je vais voir. » Puis il s'éloigne au milieu d'un vol de volatiles sur les violons virtuoses de Vladimir Kosma. Numéro 2.
On ne peut pas te le donner, mon chéri.
Pourquoi ?
Eh bien parce que c'est un monsieur. On ne peut pas te donner un monsieur.
Pourquoi ?
Le jouet d'un autre géant de la comédie, Francis Weber, pour qui vous écrivîtes La chèvre ou Le dîner de cons. Et avec Pierre Richard, pour qui vous élaborâtes cinq musiques, dont celle à laquelle mon fils doit son prénom, Les malheurs d'Alfred. Le jouet est une comédie sociale qui nous parle de paternité, du pouvoir de l'argent, et nous rappelle que si l'amour peut être tarifé, il ne s'achète pas. Le jouet dans lequel Michel Bouquet, en glacial président Rambal-Cocher, demande à Jacques-François « Qui de nous deux est le monstre Blénac ? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ?» ou vous qui acceptez de montrer votre derrière. Numéro 1. Le bal d'Ettore Scola, pour lequel vous avez remporté votre deuxième César après Diva de Jean-Jacques Benex. Là, on entend la musique de l'As des As, mais on va l'abaisser. Ce film a fait le tour du monde car dans cette salle de bal défile l'histoire de France des années folles aux années 80 au gré des musiques qui ont rythmé ces décennies. 1h40, sans paroles véritables, tour de force narratif qui n'aurait pu exister sans votre musique. À l'heure où de nombreux réalisateurs se muent en faiseurs de clips pris à pic et qui préfèrent s'acheter un standard de la pop entendu sur Spotify et qui ne raconte pas grand-chose, parcourir vos 50 ans de succès, c'est se rappeler qu'il y a trois auteurs dans un film. Le réalisateur, le scénariste et le compositeur. Pas de Léon sans Morricone, moins d'Hitchcock sans Bernard Herrmann et pas d'âge d'or de la comédie française sans Cosma. Vos réalisateurs l'ont bien compris car ils vous sont fidèles. De Se citer plus haut à Claude Pinotto, en passant par Pascal Thomas ou plus récemment Jean-Pierre Mocky. Et vous allez me dire que j'ai passé à l'as Gérard Houry qui, même s'il n'avait pas aimé la flûte de Pan de Zemphyr sur le Grand Blond, vous a confié celle de Rabbi Jacob, que vous avez nourri de votre tropisme klezmer d'Europe centrale et de votre admiration pour Louis de Funès. Houry, pour qui vous avez composé six films, dont celle qui conclut cette chronique, beaucoup trop longue pour Par Jupiter, mais bien trop courte pour votre carrière. Cette musique qui ouvrira vos concerts du Grand Rex les 26 et 27 janvier, et qui nous rappelle qu'en musique de film, c'est vraiment vous, l'as des as.
Thank you.
Vladimir Cosma. Ainsi s'ouvrira donc le concert au Grand Rex. Thomas Croisière l'a dit. Vous voulez réagir peut-être à cette très belle chronique de Thomas ?
Mais écoutez, j'étais très ému. L'entendre parler de mes musiques, j'avais l'impression de les voir revivre, quoi, d'une certaine manière. Et voilà, j'étais très, très ému, impressionné.
Merci, ému des deux.
Il travaille depuis longtemps. Hein.
Dès qu'il a si on n'était pas à la radio, je voudrais demander immédiatement de redire encore tout ça.
On vous prête comme un jouet.
Sachez, Vladimir Cosma, comme nos auditeurs, que vous pouvez bien sûr réécouter en podcast, mais aussi voir Thomas Croisière en vidéo.
C'est le mieux.
Sur Facebook, car il a emmené ses vinyles qu'il avait achetés à la discothèque de Radio France. Et donc, pendant cette chronique, il a montré fièrement les pochettes. Et donc, il y a du visuel aussi, si vous pouvez en profiter.
De négocier une dédicace en fin d'émission.
Vladimir Cosma avec nous. Les concerts au Grand Rex les 26 et 27 janvier. Mais aussi, sachez, en double CD, Vladimir Cosma en concert. À côté de vous, il y a Christine Gonzalez.
Aujourd'hui, Georges Simenon revient parmi nous. Il est un peu comme vous, hein, Charline et Alex. Il est belge et il a fait sa carrière en France. Il est un peu comme moi parce qu'il est mort en Suisse. Oui, je suis morte en Suisse fin 2018. Et en cette année 2019, on célèbre les 30 ans de sa mort. Georges Simenon, bonjour. Tout d'abord, joyeux anniversaire.
Ça fait un drôle d'effet. Je n'aime pas les anniversaires. J'ai horreur de ça. Tous les anniversaires me donnent le cafard.
Oui, d'accord. Mais enfin, vous êtes mort à Lausanne. C'est une chouette consolation. Mourir en Suisse, c'est un peu comme faire la fête à Ibiza. C'est là que ça se passe.
À un moment donné, sans savoir pourquoi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici ?
Oh, il y a pire, hein, vous auriez pu être dans un au-delà français, vous imaginez l'enfer ?
Ça me déplairait énormément. ça doit être terrible.
Oui. D'ailleurs, quel regard vous posez sur la France d'aujourd'hui ?
Ça fait beaucoup de révoltés, parce qu'ils vivent dans un monde tout à fait nouveau.
C'est-à-dire ?
Tout va très vite, de plus en plus vite. Ils vivent dans une période que je ne connais pas.
Mais est-ce que c'est très différent qu'il y a 30 ans ?
En réalité, le monde actuel n'est pas dirigé par des hommes politiques, que ce soit Monsieur
Macron ?
Non.
Castaner ?
Non, pas du tout.
Joachim Sonneforger ?
Mais non !
Bah, je sais pas, moi.
Je finis par mélanger les noms. Au fond, ce sont des pauvres types comme les autres. N'importe lequel, ils n'ont rien à dire. Ce sont les grandes internationales qui dirigent le monde.
Ouais, Apple, Amazon, Facebook.
Ça, je suis absolument contre cela. Il y a 5 familles au monde qui peuvent affamer n'importe quel pays. Alors ne me dites pas que ce sont 150 ou 500 ou 350 députés qui décident d'une loi. Ce sont ces familles.
Oui, bon, vous, niveau pognon, ça allait quand même, pas trop à plaindre. De votre vivant, vous avez quand même vendu 550 millions de livres.
C'est pour ça que je vous dis, je n'ai jamais couru après la fortune. C'est la fortune qui est venue à moi. Et j'ai dépensé sans compter.
Les femmes non plus, hein, vous ne les avez pas trop comptées, Georges Simenon.
J'ai commencé à 13 ans. Bon, ben, à 3 par jour. On doit arriver dans les 10 000.
10 000, voilà. on a toujours dit ça, hein, Georges Simenon, l'écrivain aux 10 000 femmes.
C'est tout de même que les hommes ne sont pas des petits saints qui se contentent d'aller le soir dans leur lit avec leur femme, n'est-ce pas ? Eh bien, moi, je le dis franchement.
Et aujourd'hui, dans l'au-delà, question Q, il se passe des trucs ?
Aujourd'hui, je suis calme, complètement.
Vous ne seriez pas un peu le Yann Moix de l'au-delà, le genre d'esprit qui n'aime pas trop les fantômes de femmes de plus de 50 siècles ?
C'est difficile à dire, vous savez.
C'est beau, un esprit mûr, non ? Non ?
Chacun doit suivre ses pulsions.
Ah, et là, vous tombez dans le piège de la banalité.
Et vous ?
Quoi, moi ?
Dis-moi, je t'aime.
Ça va pas. Non, on va plutôt se dire au revoir, Georges Simenon.
Dis-moi seulement, je t'aime.
Mais arrêtez, j'ai 76 ans de moins que vous.
Ça m'est égal.
Allez draguer une femme de votre âge, Marguerite Yourcenar, par exemple, elle est de 1903, comme vous.
Non, dis-moi seulement ces deux mots. Je t'aime.
Non, mais ça suffit. C'est du harcèlement médiumnique, là.
C'est pathétique.
Oui, allez, au revoir, Georges. Mais s'il vous plaît, on reste copains.
Oui.
Voilà, merci.
Merci Christine Gonzalez et merci Georges Simenon. Les archives de l'INA.
C'était une invitation de Jacques Chancel dans Radioscopie, ici à France Inter dans les années 80.
Oh, dites-donc.
Il avait déjà perdu son accent liégeois. Il en restait plus beaucoup.
Incroyable, n'est-ce pas? On y était. Merci beaucoup, Christine Grosalès. À réécouter, bien sûr, aussi, on ne s'en lasse pas. Vladimir
Kosma. Mais la fin était triste. Hein. Le pauvre homme, elle l'a laissé sur sa fin.
Je n'ai pas aimé non plus.
Vous ne laissez pas lui dire que je t'aime.
La fin, je ne veux pas être la 10 000 unième, quoi.
Il faut que vous refassiez la fin. Là.
Faites la musique et on discute.
On va refaire une émission. Si on faisait une nuit, Vladimir Kosma, oui. Comme ça, on passe tout en intégrale. On refait 3 fois la chronique de Thomas Croisière et on change la fin de Christine Grosalès.
Ah, ça, oui, absolument.
Vous êtes prêt à passer une nuit avec nous, Vladimir ?
Absolument, oui.
Je peux vous appeler Vlad ?
Oui. Allez, on continue. Vlad l'Empaleur.
Ah bah, savez, ça va très vite, hein, quand même.
Parce que c'est un grand roi roumain qui empalait les gens qui ne lui obéissaient pas, une sorte de Trump roumain.
Oui.
Alors, quand ça ne lui plaisait pas, il avait...
Ah oui. Et il a inspiré Dracula, d'ailleurs.
Voilà.
Ça se finit pas très bien non plus, alors.
Hein, empaler les gens...
C'est des solutions. Hein.
Parlons musique alors. Hein. Ouais. Parce que la France offre de plus en plus de ciné-concerts. C'est-à-dire que dans une salle de spectacle, un film est projeté, tandis qu'au pied de l'écran, un orchestre joue la musique du film. Généralement, c'est son compositeur qui tire la baguette, comme vous bientôt au Grand Rex. Exemple, La La Land, à la Scène musicale à Paris, qui va s'exporter dans les Zéniths de France. Musique, cinéma, cinéma, musique.
Blanc et noir. Extérieur, nuit zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma. Mise au point sur moi. Mise au point.
Ah oui, bah c'est bien lui alors, mise au point sur moi. Alain Delon, qui chante comme au cinéma, de Romano Musumara, auteur de En rouge et noir de Jeanne Masse, de Comme un ouragan de Stéphanie Monaco ou encore de T'en va pas d'Elsa.
Oui. Un type brillant.
Alors, Vladimir Kosma, avez-vous déjà fait l'expérience du ciné-concert de cette manière-là, avec le film projeté et le live?
Écoutez, j'ai fait un tout petit peu et j'ai renoncé assez vite.
Pourquoi?
Parce que, si vous voulez, ma démarche était exactement à l'opposé de ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer que la musique peut vivre sans le film et sans les images, telles que je le fais au concert que vous dites. Et j'ai pensé que ceux qui veulent voir un mélange de films et de musique, ils peuvent très bien aller voir le film et comme ça ils entendent la musique et l'image. Bon, c'est pas... Ceci dit, je comprends très bien cette démarche pour certains films. Je n'ai pas fait beaucoup de films qui pourraient se prêter à un ciné-concert, parce que c'est souvent les grands films américains où il y a la musique d'un bout à l'autre.
Oui, on a cité La La Land, il y a aussi Star Wars à la Philharmonie, c'est une manière de démocratiser.
Voilà,
aussi.
Non mais c'est tout à fait envisageable. Vous savez, c'est une sorte de retour en arrière, parce que le cinéma, au temps du muet, ça, il y avait l'orchestre qui jouait dans les fosses, et on projetait le film et l'orchestre était vivant. Pourquoi pas? C'est comme disait Lénine, un pas en avant, deux pas en arrière. Alors c'est ça, on fait du progrès en allant vers le passé.
Mais on pourrait envisager le bal, par exemple. Celui-ci pourrait tout à fait se prêter à un ciné-concert.
Bien sûr, le bal d'ailleurs a été monté
en spectacle
en Allemagne et dans différents pays. On peut toujours faire, je suis tout à fait pour. Tout ça, ça dépend comment c'est fait, qui que ça s'y prête, etc. Mais bon, je ne vois pas un ciné-concert avec le Rabbi Jacob, même s'il y a 2-3 scènes comme la danse et tout ça qui peuvent être très payantes. Mais tout le film, c'est plutôt le texte, les scènes. Mais en plein bruit, on pourrait faire la boum ou autre chose où il y a beaucoup de musique, beaucoup de scènes musicales qui pourraient être faites de cette manière-là.
Qui est troublant. Moi, je n'en ai pas fait l'expérience. Je ne sais pas si autour de cette table, vous avez déjà assisté à des ciné-concerts. Mais est-ce qu'on n'est pas tenté? Alors, on a le film. Où est le regard? Où est l'attention? C'est-à-dire qu'on a deux. C'est comme deux spectacles en même temps. Où regarder? Est-ce qu'on n'est pas troublé de se focaliser sur l'un ou l'autre?
Écoutez, si c'est bien synchronisé, non, mais ce que vous dites est vrai. Et c'est pour ça que j'ai renoncé, moi, au début, dans les concerts que j'ai donnés. Souvent, je mettais des images, des scènes, et on jouait parfois avec l'orchestre, avec ces scènes-là. Et c'était au détriment de ce que je voulais montrer, puisque les gens ne savaient pas, ils regardaient le film, ils écoutaient le concert, etc. Et dans les concerts que je fais, il y a beaucoup de solistes, il y a beaucoup d'attractions, de choses qui sont intéressantes à voir et à écouter.
Et à se concentrer complètement voilà. dessus, hein, n'est-ce pas? Donc, il y aura des invités sur scène, hein, les DJ Electro, Polo et Pan, il y aura Richard Sanderson, bien sûr, il y aura Michael Gregorio, l'imitateur, qui sera là, et puis les solistes, on en a cité quelques-uns, dont le violoniste David Castrobalbi, ou l'harmoniciste Greg Zlap, avec Vladimir Kosma, et je rappelle aussi, le 27 janvier à 11h au Grand Rex, votre première masterclass.
Il y a une, excusez-moi, pour ne pas oublier, une jeune trompettiste avec laquelle je travaille pour la première fois. J'espère qu'on va bien s'entendre. Elle s'appelle Lucienne Renaudin-Vary. Elle a 18-19 ans. Et trompettiste de jazz, mais elle est aussi trompettiste classique. Elle a eu les Victoires de la musique, je crois, il y a un an ou deux. Elle est très douée. Quoi. Voilà.
Et donc le double CD, hein, pour ceux qui n'ont pas l'occasion, Vladimir Kosma en concert. Chers auditeurs, le vendredi, elle vient souvent par ce studio. C'est Isabelle Sorrente.
Oui, alors les amis, vous vous souvenez peut-être qu'en octobre dernier, on a appris qu'un petit poisson, le labre nettoyeur, était capable de se reconnaître dans un miroir. Le test du miroir, ou test de Gallup, mis au point dans les années 70, consiste à faire une petite marque sur la peau ou le pelage d'un animal à un endroit qu'il ne peut pas voir, par exemple sur le front d'un éléphant ou d'un chimpanzé, et à voir s'il tente de l'effacer lorsqu'il remarque la présence de la marque dans un miroir. Alors on en déduit que l'animal sait que c'est lui dans la glace et qu'il partage avec l'homme ce merveilleux privilège, la conscience de soi. Les animaux capables de réussir le test ne sont pas si nombreux, croit-on. Les singes, les dauphins, les éléphants et certains cochons faisaient partie du club très fermé de ceux qui réussissent le test du miroir. Un club qui rappelle un peu la version animale de Mensa, le club des surdoués à plus de 150 de QI. Et voilà que l'automne dernier, on apprend qu'un petit poisson, spécialisé dans le nettoyage, une petite femme de ménage de rien du tout, puisque son job dans la chaîne alimentaire consiste à débarrasser d'autres poissons de parasites, un poisson pas plus gros que mon index, passe le test du miroir.
C'est l'équipe... Il a enlevé la tâche.
Ils lui ont fait des petites tâches, en fait. Il ne faut pas que je diverge, je fais vite.
Ah non, c'est moi.
Des petites tâches avec une marque qui ne leur fait pas de mal, quoi. Et ils se sont rendus compte que, vraiment, ils les enlevaient.
Bien coûte que dessus.
Voilà, en gros. Et c'est un japonais, donc, qui s'appelle Masamori Koda, qui a fait cette expérience à l'université d'Osaka. Et donc, les poissons, donc, à qui on injecte ce produit, non seulement ils font partir la marque, mais en plus, ils s'amusent avec le miroir. Ils foncent dessus, ils freinent à la dernière minute, ils font des gestes, on va dire, qu'ils ne font pas d'habitude. Et en plus, ça a l'air de les amuser beaucoup. Et la conclusion de l'expérience, c'est que ces animaux, ces poissons qui auront peut-être tous disparu d'ici 2050, parce que vous savez que les océans sont en train, le pire se passe sous l'eau, hein, en matière de destruction des espèces, tous les poissons, donc, eh bien, il y en a au moins certains qui sont probablement doués de la conscience de soi. Mais le vrai test, le grand test, le plus intéressant, c'est les réactions des êtres humains devant cette nouvelle. Réaction de Gordon Gallup, le psychologue inventeur du test. Impossible. Selon lui, on aurait confondu la manie de nettoyage du poisson avec une volonté de faire disparaître la marque. Or, en fait, la majorité de la communauté scientifique reconnaît au contraire que non, les jeux, l'amusement des poissons, le fait qu'ils prennent des positions inédites, ça veut bien dire qu'ils sont conscients que c'est leur reflet. Et en plus, on peut les saluer au passage parce qu'un miroir, pour eux, ça n'existe pas, donc ils s'en rendent compte relativement vite. La réaction des neurologues, eh bien en fait, c'est finalement, le test du miroir, ça ne veut rien dire. Voilà. Depuis les années 70, on mettait ça au PLINAC, mais en fait, ça prouve que l'animal a conscience de son corps, certes, mais de ses émotions, de son ressenti, eh bien on n'en sait rien puisqu'il ne peut pas parler. Et justement, ce difficile à savoir, puisqu'on ne peut pas, on ne sait pas, est-ce que ce n'est pas notre test du miroir à nous, au fond? Parce que nous qui sommes si malins, si nous considérons que nous sommes le club des surdoués de la création, alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Parce qu'on dirait qu'on est assez intelligent pour justifier l'élimination d'autres espèces, mais pas assez pour faire une hypothèse un peu audacieuse, c'est-à-dire pour envisager qu'il puisse exister d'autres formes d'altérité et plusieurs consciences au pluriel de soi possibles. Des consciences de soi qui ne passent pas nécessairement par le fait de contempler sa gueule toutes les 5 minutes. Est-ce que la conscience de soi se limite à poster un selfie sur Instagram ou à vérifier que nous n'avons pas de taches sur notre chemise. Si c'est ça la conscience de soi, eh bien les oiseaux qui saluent le soleil ou le labre nettoyeur ont beaucoup à nous apprendre. Au moment où toutes les espèces, sauf la nôtre, pensons-nous innocemment, nous qui voyageons en première classe du Titanic, au moment où toutes les espèces semblent menacées, allons-nous nous rendre compte qu'il y avait un peu plus d'autres que nous ne le pensions, que l'excuse de dire « ils ne se rendent pas compte » ne tenait pas debout. Cette prise de conscience serait la vraie réussite du test du miroir, parce que le vrai miroir, ce n'est pas un morceau de verre dépoli, c'est notre planète. Voilà ce que tentent de nous dire les poissons et les oiseaux, et ils en crèvent que nous ne passions pas le test, malgré tous les indices qu'ils essaient de nous donner.
Isabelle Sorrente, merci beaucoup Isabelle.
Elle est très forte.
Oui.
Très forte.
C'est l'esprit brillant.
Merci Vladimir, là je ne sais plus où me mettre.
Respirez Isabelle, félicitations pour votre démonstration. Abordons ce dernier sujet, les faux Queen, faux Led Zeppelin, faux Doors sont en tournée, ça s'appelle Rock Legends et ils reprennent les tubes des groupes mythiques de façon très professionnelle, hein, mais ce sont des vrais faux groupes et parfois il y a des indices. Ouais, bah oui, quand c'est en japonais, il y a un indice. Bohemian Rhapsody. L'occasion de vous demander, Vladimir Cosma, est-ce que vous êtes rock ? Est-ce que vous êtes un peu rock ?
Non.
Non ?
Non, je suis pas. Non, ma culture n'est pas particulièrement anglo-saxonne et rock. Mais je sais apprécier quand même. Mm-hmm. J'apprécie quand j'en.
Ça pose la question, ces groupes qui sont sur scène, qui ont énormément de succès, qui reprennent les groupes en les singeant, même dans les costumes, etc. Rock Legends, et donc il y a Queen qui lui ressemble et qui les singe. Est-ce que ça pose la question de la postérité de l'œuvre ? Est-ce que ça vous plairait qu'il y ait
un tribute tout Vladimir Cosma dans 50 ans, quelqu'un qui reprend. Est-ce que c'est quelque chose?
Nous, les artistes, on travaille pour durer et en espérant qu'on va exister à travers notre musique après notre mort, si je peux dire ça. Et bon, on joue du Chopin aujourd'hui, il n'y a plus Chopin ou Liszt pour les jouer eux-mêmes, il y a d'autres qui le jouent, certes, probablement différemment de ce qu'ils le faisaient eux-mêmes et peut-être moins bien ou mieux, je ne sais pas. Enfin, c'est positif, quoi.
C'est quelque chose qui vous angoisse, parce que, prenons Van Gogh, peut-être il aurait préféré avoir une vie heureuse plutôt que de savoir qu'aujourd'hui c'est un des plus grands peintres au monde, alors qu'à l'époque il n'avait pas vendu une toile.
Oui, mais vous savez, il y a des gens qui sont doués pour le bonheur, il y a d'autres qui sont doués pour le malheur. C'était le cas de Van Gogh, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il
mais
a laissé.
Il n'a pas été reconnu sur le moment, comment, c'est ce que je veux dire. Oui. Vous êtes reconnu aujourd'hui.
Oui, mais si vous voulez, à très peu comme Van Gogh, déjà au niveau du talent et au niveau des artistes qui n'ont pas été... En musique, vous n'avez pas d'exemple de grands compositeurs ou grands musiciens qui n'ont pas été reconnus dès leur vivant.
Et pourtant, il y en a un derrière vous, Vladimir Cosma. je vais vous dire.
Il est arrivé Frédéric Fromet qui nous chante sa chanson chaque semaine.
Et
de
oui,
quoi
bonsoir.
Allez-vous nous chanter ?
Eh bien, je vais vous chanter l'amour grâce à l'église et la pédophilie. Tout en essayant de faire honneur à notre invité, Vladimir Cosma.
Ah là 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 là, qu'est-ce qui m'attend là ?
J'ai reçu l'amour au catéchisme. J'ai mal au cul, mais c'est au nom du Christ que le curé m'a dit « Viens mon petit gars, ce sera notre secret, te retourne pas, c'est pas mon doigt, j'ai reçu l'amour au presbytère. » J'étais tout nu, mais pourquoi faire mon père? Allons, mon fils, tu joues le rôle d'Adam. C'est au chapitre 10, Adam se fait prendre sauvagement. Église, with my pédophilie, faut bien tromper l'ennui dans la sacristie. Déjà qu'il faut se coltiner des histoires à la con. On sait bien que Dieu sait bidon. Église, with my pédophilie, il faut bien s'amuser dans l'évêché. On va pas se taper, merci bien, des grenouilles de bénitier, des cris Christine Boutin, pitié. Le cureton avec une robe noire et des bijoux, c'est quand même un petit peu bizarre. S'il vous dit qu'il est venu en scout, peut-être qu'il s'agit pas d'un scooter mais d'un vrai scout. Le père prénat sous la soutane n'avait pas honte de bander comme un âne. On l'aurait même vu au JMJ faire le signe de croix avec son zizi. Le cureton avec une robe noire aime les enfants qui sur ses genoux viennent s'asseoir. Enfants de cœur, ouais ouais c'est ça mon cul, il vaudrait mieux dire d'ailleurs des enfants de cul. L'église étant une vraie mafia, nous pouvons compter sur l'omerta. Rien su, rien entendu ni rien vu, chez les gâteaux on aime bien le petit Jésus. Église with my pédophilie.
Merci. Frédéric.
Bravo Frédéric.
Le pire, c'est que vous allez toucher les droits d'auteur pour ça. Oui, c'est ça le plus dur.
J'aurais préféré ne pas les toucher. Oui.
Alors que Monseigneur Barbara ne va rien toucher. Et c'est lui qui vous a inspiré sans doute.
Enfin,
ça.
Rien touché.
Oui, oui, pardon.
Sûrement les présenter les paroles comme ça, je les aurais refusées à 100%.
Ben voilà, la collaboration avec Frédéric Fromet foutue. Vous n'irez pas le voir à Vladimir Conneret.
Vladimir Cosma, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je rappelle que vous dirigez l'Orchestre Symphonique du 7e art et 80 chanteurs du chœur des universités de Paris au Grand Rex les 26 et 27 janvier avec une masterclass le 27 janvier matin. Et Vladimir Cosma en concert, le double CD. Cette semaine, il y avait une réalisatrice. Elle s'appelle Sonia Leglen et on la surnomme Sony parce qu'elle a travaillé à la radio américaine. Il y a aussi des programmateurs qui sont également des chercheurs de son, de documentation. Ils s'appellent Nathalie Romero, Fabrice Rivaud et Sarah Masson, assistés de Paul Plumet, ainsi que Frédéric Fromet, co-auteur des journaux et des sketchs. Il y a Ramzi Assadi, metteur de points sur les i, comme dans Édition, ce qui est un petit peu sa mission. Aujourd'hui à la technique, au bout des doigts, il y a des hommes, Rémi Sistiaga et Julien Dumont. Et il y avait aussi un mot de la fin.